Allô, allô. On est le premier dimanche du mois, c'est Cœur Noir Tripalium sur Radio Dio, l'émission des syndicats de la CNT 42. Ce mois-ci, on va parler des 150 ans de la commune, qu'on devrait d'ailleurs plutôt nommer les 150 ans des communes, puisqu'il y en a une très éphémère, mais qui a bien existé, à Saint-Étienne, et qu'on a commémoré en ville hier. Et voilà, on va surtout revenir là-dessus aujourd'hui dans l'émission, et aussi de ce qui se passe en ce moment à Lyon. Voilà, alors hier on a donc manifesté avec la CNT et d'autres gens, puisque c'était une manifestation publique en ville à Saint-Té. C'est une manifestation qu'on a déclarée nous à la préfecture, donc voilà, maintenant avec les restrictions sanitaires et le... la jurisprudence gilet jaune, on peut plus manifester comme avant, où on veut, quand on veut, en partant comme on veut en ville. Les dernières fois où on a essayé de faire ça, ça s'est plutôt mal passé avec un... Enfin, ça s'est plutôt mal passé. Ouais, il y avait le comité d'accueil qui empêchait toute manifestation. Donc là, on a fait les choses dans les règles, on va dire. On a envoyé une déclaration avec un parcours précis 15 jours auparavant. Bon, après, la préf, c'était un peu comme tout le monde, ils étaient un peu suspendus aux annonces du président de mercredi dernier. Et finalement, ils ont quand même accepté ce parcours. Le projet de cette manif, c'était de montrer qu'en fait, dans Saint-Étienne, il y a plein de rues, il y a plein de lieux qui sont marqués, qui sont nommés par des insurgés qui datent de la commune, beaucoup de gens qui ont participé à Paris, à Saint-Té ou ailleurs aux insurrections de la fin du 19e et notamment donc à ces proclamations de commune. On est parti, le rendez-vous était à 13h30 à l'Opéra. Il y avait des gens, on les remercie bien d'ailleurs, les sénétistes du 26, du 07 et du 38 qui nous ont rejoints pour cette manif. Et je dirais qu'on était à peu près 150.
Ouais, c'est à peu près ça, hein, je pense.
Voilà, si vous voulez parler du parcours ou des animations qu'il y a eu.
Ouais, ben on peut faire un petit tour de table sur le ressenti de la manif et sur tout ce qui s'est passé. Je sais pas qui veut commencer.
Bah, c'était quand même super cool, le fait qu'on se retrouve tous et toutes dans cette manifestation. On n'était pas vraiment extrêmement nombreux, mais ça faisait plaisir de voir tout le monde ensemble. Et voilà, la venue des camarades du 38 et du 26, c'était chouette parce que c'est des moments de partage et ça fait plaisir de connaître d'autres villes et d'autres points de vue.
Il y avait Anas aussi qui ressortait en manif pour la première fois depuis longtemps, c'était cool.
Ça nous a fait super plaisir de le voir. Bah ouais, c'était franchement c'était super chouette. Et puis je veux dire, voilà, quelque part c'était aussi cool de... On s'est dit que c'était important de faire un truc pour les 150 ans de la commune. Au final, on s'est un peu creusé la tête. On a eu un peu peur en organisant un truc. Un peu de doute sur comment on allait l'organiser, etc. Et en fait, on l'a fait et tout s'est bien passé. C'était même génial. Et puis je pense qu'il y a aussi un... Enfin, moi j'ai eu quand même un peu cette satisfaction de se dire qu'en fait, même en petit comité, même à 100, 150, et en étant que certaines structures, certaines orgas, enfin là pour le coup en plus c'était vraiment, je crois que la CNT qui appelait officiellement à cette manif et qui organisait, mais du coup ça fait aussi plaisir de se dire qu'en fait on peut encore reprendre la rue en petit comité et aller parcourir la ville entière, balancer des slogans, craquer 2-3 fumis, faire des chants de chorale, et se réapproprier la ville en petit nombre aussi, autour de thèmes comme celui de la célébration de la commune. Bah, j'ai trouvé que c'était assez fort et que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de petites manifs comme ça.
Mmh. Il y avait aussi une chorale qui interprétait des chants révolutionnaires un peu tout le long du parcours. C'était un long parcours. On est parti aux alentours de 14h de la place de l'Opéra pour arriver au fil, en passant par de très nombreuses rues, pas toutes, hein, loin s'en faut... des rues symboliques. On est passé place Jules Guesde, rue Jules Vallès, rue Élisée Reclus, rue Jean-Baptiste Clément. Voilà, il y avait beaucoup, beaucoup de choses à faire. On n'est pas passé par l'impasse Louise Michel, ni l'impasse Eugène Varlin qui sont un peu trop éloignés.
Ouais, qui sont à l'autre bout du monde de Saint-Étienne.
Mais bon, autour de Bergson, Carnot, Jacquard, il y a quand même aussi des rues par lesquelles on est passé et qui ont permis en fait de passer dans des quartiers qui ne voient jamais défiler une manif habituellement. Et c'est vrai que du coup, ça va aussi à la rencontre de populations qui sont pas forcément habituées à voir passer les manifs devant chez eux. Et ça, j'ai trouvé ça cool.
Bah, puis moi, j'avoue que ça m'a aussi un peu rappelé ce côté où on va vraiment se perdre en dehors des grands axes du centre-ville et où on a fait une marche qui était quand même relativement longue. C'est vrai que ça m'a un peu fait penser aussi aux manifs gilets jaunes, comme on pouvait tourner pendant 4 heures dans les rues sans vraiment savoir où aller. Bon, là, pour le coup, on savait où on allait, mais il y avait un peu ce truc. C'était quand même cool de sortir des manifestations habituelles qui s'arrêtent de la Bourse du Travail à la préfecture et qui vont juste marcher sur les lignes de tram. Là, c'était quand même assez chouette, ça a changé un peu. Et puis en plus, c'était cool parce que le cortège était dynamique, quoi. Il y avait des chants, il y avait des slogans. C'était assez chouette. Il y avait une bonne alternance, en fait, entre et les passages de slogans revendicatifs et les moments de chants révolutionnaires animés par la chorale et puis repris par toute la foule. Et puis avec ces passages aussi historiques, à chaque fois dans les rues qui portaient le nom de Communard, pas Communard pour le coup d'ailleurs, parce qu'on a très peu de rues qui portent le nom de Communard à Saint-Étienne. Mais y avait à chaque fois un petit rappel historique et tout, et qui était assez plaisant en fait. À chaque fois, ça temporisait un peu la manif, et puis après, ça repartait en slogan. C'était cool.
Ouais, effectivement, le parcours était tout tracé. Hein. On était encadré par les forces de l'ordre du départ à l'arrivée, avec quand même un motard qui s'est tanké sur un terre-plein central près du fil. Donc ça, c'était le moment Nutella de l'après-midi.
Je l'ai même pas
Après, une fois arrivé au fil, on a pu prendre peu de temps, mais quand même un petit peu le temps pour discuter avec tout le monde et boire un canon et discuter des livres de la glute qu'on avait pu sortir. Voilà, on avait même préparé des masques CNT. Enfin voilà, c'était
et puis plein de stickers, des panneaux aussi. Il y a eu des panneaux pour renommer le boulevard Thiers. Il y avait
On avait fait des petits autocollants pour recouvrir chaque plaque, soit des communards en mettant qui disait voilà que c'était des
qui avaient participé à la commune.
Voilà, qui avaient participé à la commune de Paris ou des autres villes. Et après, du coup, on est arrivé boulevard Thiers. Et c'est là, du coup, on a mis un gros autocollant où on a changé le nom du boulevard en le boulevard Louise Michel. Voilà.
Qui vient accompagner en plus le nom qui a été. Il y a l'espace du fil qui a été occupé, donc la salle de concert du fil qui se trouve sur le boulevard Thiers, et toute l'esplanade devant le fil, là où s'est arrêtée la manifestation. Les intermittents et intermittentes du spectacle et de l'emploi l'ont eux aussi rebaptisé Esplanade Louise Michel. Et d'ailleurs, c'était cool aussi, c'est pour ça qu'on est allé jusqu'au fil, c'est parce que de une, ça finissait sur le boulevard Thiers et il y avait cette volonté de renommer cette rue qui porte le nom d'un horrible tortionnaire. Parce que aussi il y avait les camarades qui sont en lutte actuellement au fil qui s'y trouvent et que du coup ça, c'était sympa de pouvoir finir là-bas. D'ailleurs ils nous ont craqué un petit fumigène d'accueil lorsque le cortège est arrivé, c'était assez chouette.
Je vous propose de lire le tract qu'on a distribué hier aux Stéphanois et Stéphanoises. On avait tiré un peu moins de 300 exemplaires. Hier la commune. Pendant que l'Empire français de Napoléon III est en train de perdre la guerre contre la Prusse, les communes fleurissent dans de nombreuses villes, Lyon, Le Creusot, Brest et aussi à Saint-Étienne. À Limoges, Périgueux ou Foix, des insurrections ont lieu. À Paris et Marseille, le peuple assiège les mairies et contraint les conseillers à la démission. Ces assemblées proclament alors des lois de progrès social et revendiquent l'égalité entre les hommes et les femmes. Parfois, les communes sont tuées dans l'œuf. Leurs instigateurs rapidement arrêtés, mais elles renaissent alors quelques mois plus tard. Le souvenir de la révolution de 1848, quand le peuple parisien entraîna la chute de la monarchie et la naissance de l'éphémère Deuxième République, est dans toutes les têtes. Dans notre ville, de très nombreuses rues portent le nom d'ouvriers et d'ouvrières insurgés qui ont pris part à l'éphémère commune de Saint-Étienne en mars 1871. D'autres acteurs et actrices ne sont pas immortalisés par une rue à leur nom, mais restent dans les mémoires des rebelles stéphanois. La rue Louis-Granger a longtemps été celle de la Vierge, où le club de la rue de la Vierge, dont le secrétaire était Jean Caton, publiait cet appel. La commune, c'est notre titre et nous en sommes fiers. La commune, c'est la pyramide sociale remise sur sa base, le peuple, c'est-à-dire la totalité des citoyens. Au XIXe siècle, les forces de police sont mal équipées et c'est à l'armée que le pouvoir fait toujours appel pour mater les ouvriers et les ouvrières. Le 28 mai, au dernier jour de la semaine sanglante, les 120 000 soldats français qui assiégeaient Paris écrasent la commune. En quelques jours, plus de 30 000 parisiens et parisiennes, hommes, femmes et enfants, sont tués dans les combats ou sommairement exécutés. Souvenons-nous qu'avec les armes de l'époque, massacrer autant de personnes en si peu de temps relève d'un acharnement et d'une violence inimaginables. Les survivants seront déportés en Nouvelle-Calédonie. Parmi elles et eux, des Stéphanois, des Stéphanoises, Balimont, Jacques Agier, Antoine Chastel ou encore Jean-Baptiste Tamet. Ça, c'est des gens qui ont des rues à leur nom à Saint-Thé. C'est dans le sang des ouvriers et des ouvrières que naît la Troisième République, raciste, autoritaire, brutale, militariste et profondément inégalitaire, mais qui saura toujours maîtriser sa propagande universaliste. Née dans le sang, elle ne craindra jamais de le faire couler. Simplement, les changements productifs détournèrent vers les colonies une grande part de la violence de l'État. Les hommes, car il n'y avait que des hommes qui sont à sa tête, sont encore aujourd'hui présentés comme des héros et on donne leur nom à des collèges. Mais c'est par exemple Jules Ferry qui, réfugié à l'hôtel de Paris en mars 1871, voulait balayer les insurgés à la mitrailleuse. Et aujourd'hui ? Décidément, on dirait bien que la République doit être bourgeoise ou ne doit pas être. Et si la chose est rendue compliquée, alors l'Empire, la monarchie ou la technocratie autoritaire ou n'importe quel fascisme valent mieux pour la bourgeoisie que le gouvernement du peuple par lui-même, c'est-à-dire la seule et authentique démocratie. Voilà ce que pensent celles et ceux qui ont la prétention de nous diriger. Voilà leur mépris des travailleurs et des travailleuses. À travers elles et eux et leur violence de classe, c'est la longue histoire de la guerre que l'État mène contre la société qui se poursuit sous des formes toujours réinventées. Aujourd'hui, dans notre pays si propre en surface, les autorités n'en appellent plus à l'armée pour contenir les sans-dents. Non, elles disposent désormais d'une police nombreuse, suréquipée et formée à briser les tentatives d'émancipation dégueuses que nous restons. Et, comme en écho au passé douloureux, cette police fait usage contre nous d'armes de guerre comme les LBD et les gaz CS. Avec le développement du salariat et de la consommation, frapper au portefeuille est devenu un moyen efficace de contraindre et museler. On se voit ainsi privé de 10 ou 20% de son revenu mensuel pour n'avoir pas porté un masque en extérieur. Pédagogie de la matraque, pédagogie de l'amende. Nous chantons la commune car c'est important de se souvenir de ces hommes et femmes qui crurent en un autre monde et qui virent leurs espoirs fauchés par les canons et déchirés par les baïonnettes. Nous rejoignons la commune sur des valeurs essentielles à nos yeux, telles que l'émancipation des travailleurs et des travailleuses, l'égalité entre tous, une séparation totale de l'Église et des affaires publiques, mandat impératif, tournant irrévocable, et enfin une pensée critique, artistique et libertaire. Mais nous devons aussi nous soustraire à l'emprise de l'État et poser des actes de résistance. Nous devons définir ensemble ce que nous voulons vraiment produire et dans quelles conditions. Nous devons gérer le bien commun et répondre nous-mêmes à nos besoins d'éducation et de santé, et nous devons construire nos outils de défense collective. Il en va de nos vies aujourd'hui et demain, et il en va du bien-être de toutes les espèces vivant avec nous sur notre planète. Vive les communes, les ZAD, les ronds-points et les occupations. Voilà, ça c'est ce qu'on a écrit et imprimé et distribué hier. Les réactions du public ? Non.
Ben... J'ai la larme à l'œil. Non, ben c'est écrit, mais c'est pas seulement écrit, c'est ce qu'on... c'est ce qu'on revendique et ce qu'on va essayer de porter dans nos combats futurs et nos combats actuels.
C'est vrai qu'on parle comme ça de la commune, des communes, comme si tout le monde savait ce que c'était, mais voilà, il faut essayer de rappeler brièvement que c'était des soulèvements populaires qui avaient pour but d'établir des conseils d'ouvriers et d'ouvrières pour diriger eux-mêmes leur ville et tous les aspects de leur vie aussi, comme la santé, l'éducation principalement, mais aussi le travail, et avec des mandats comme on l'a lu et entendu, impératifs, tournants, révocables, dans une totale égalité entre les hommes et les femmes. Donc ça c'était fin 19e. Aujourd'hui on se bagarre toujours pour ça, quoi.
C'est ça. Et l'ennemi, enfin l'ennemi entre guillemets, les gens qui sont en face ont changé de forme, on va dire, d'aspect.
Mm.
Mais en soi, c'est toujours les mêmes logiques d'exploitant et d'exploité, quoi.
Si vous êtes d'accord, je vais diffuser un enregistrement. C'est l'interview d'une personne qui est un petit peu plus âgée que nous et qui, elle, avait commémoré les 100 ans de la Commune en 1971, donc.
C'est parti.
On est un peu trop jeune pour avoir connu les 100 ans de la Commune de Paris, mais hier, on a croisé un copain qui y était à la commémoration des 100 ans de la Commune de Paris à Saint-Étienne. Donc, comment tu te souviens, comment ça s'est passé?
C'était un peu étrange parce que en même temps la Commune de Paris était surtout fêtée par le Parti communiste, donc Parti communiste et CGT, donc c'était un peu bizarre quand même parce que le côté libertaire ou autogestionnaire était disparu. C'était surtout la commémoration des fédérés, des morts, qui c'était pas mal aussi, bon voilà quoi, mais on se sentait pas vraiment à notre place. Moi j'avais 21 ans, donc je suis de 50.
Et t'étais déjà dans un groupe déjà organisé dans
groupe anarchiste, Nestor Macno sur Saint-Étienne. Voilà, donc on a plus subi qu'autre chose, mais on était en queue de manif, bon voilà.
Voilà,
on a toujours été relégué en queue de manif.
C'était surtout le Parti communiste. Et tu te souviens à quelle date ça avait été fêté ou...
Non.
Non, c'était non, en mars non, ou en, non, en mai. Non. D'accord. Et tu te souviens à peu près combien de personnes? C'était des grosses manifs quand même.
Ah oui, c'était des grosses manifs.
C'était des moments importants.
C'était les manifs des années 70 où il y avait quand même énormément de gens, quoi.
Il y avait
énormément de monde, alors en chiffres je sais pas, mais beaucoup plus qu'aujourd'hui, quoi. Donc je sais pas, c'était de l'ordre de 1000 personnes, quoi.
Ah oui, d'accord, voilà. Ok. Ok, bon, bah merci beaucoup.
Je t'en prie.
Voilà, donc ils étaient plus nombreux, mais ils étaient communistes. On va passer justement à un premier morceau. Alors c'est pas trop la patate, mais c'est vraiment justement en lien avec ce qu'on vient d'entendre. C'est sorti en 1971 pour les 100 ans de la Commune. Jean Ferrat, La Commune.
Il y a 100 ans, comme un commune, comme un espoir mis en chantier, il se levait pour la commune en écoutant chanter Potier. Il y a 100 ans, comme un commune, comme une étoile au firmament, il faisait vivre la commune en écoutant chanter Clément. C'était des ferronniers aux enseignes fragiles, c'était des menuisiers aux 100 coups de rabot. Pour défendre Paris, ils se firent mobiles, c'était des forgerons devenus des meublots. Il y a 100 ans, comme un commune, comme artisan et ouvrier, ils se battaient pour la commune en écoutant chanter Potier. Il y a 100 ans, comme un commune, comme ouvrier et artisan, il se battait pour la commune en écoutant chanter Clément. Devenus des soldats aux consciences civiles, c'était des fédérés qui plantaient un drapeau, disputant l'avenir au pavé de la ville, c'était des forgerons devenus des héros. Il y a 100 ans, comme un commune, comme l'espoir mis au charnier, ils voyaient mourir la commune. Ah, laissez-moi chanter Potier. Il y a 100 ans, comme un commune, comme une étoile au firmament. Il s'éteignait pour la commune. Écoute bien chanter Clément.
Bonjour, je vais vous parler un petit peu à quel moment les rues de Saint-Étienne ont été baptisées des noms des communards. On remercie bien Antoine de la librairie L'une et l'autre qui nous a fait passer un article des amis de l'association des amis de Benoît Malon. Et du coup, le premier qui a eu son nom baptisé, c'est Benoît Malon en 1902 par la municipalité stéphanoise présidée par, enfin le maire c'était Jules Ledain. Et ben pourquoi Benoît Malon? Déjà c'était que 9 ans après sa mort que la rue a été baptisée, et c'est parce que Benoît Malon était né dans la Loire aussi, puis qu'il avait de nombreux copains socialistes dans la Loire. Et voilà, donc le premier Benoît Malon en 1902. Ensuite, en 1907, sous la municipalité Plantevin, plusieurs communards parviennent à la notoriété. Donc il y a Jules Vallès, Charles Amouroux, Félix Pia, Blanqui. Et aussi, on en profite pour donner le nom de Proudhon et Babeuf aussi à la même époque. Donc voilà, ensuite en 1919, donc c'est Louis Soulier qui est élu à Saint-Étienne, maire, et puis de nouveau en 1935. Donc pendant ses mandats, il va donner le nom de Édouard Vaillant, Jean-Baptiste Clément, Jules Guède, Ferdinand Gambon, Amilcar et Cipriani, qui avaient combattu dans les rangs de la commune, qui étaient garibaldiens et qui étaient déportés en Nouvelle-Calédonie. Jean-Baptiste Dumay aussi. Eugène Potier. Donc ça, c'est dans les années 1935. Et aussi, en 1935-36, on a Clovis Hugues. Zéphirin Camélina, Jean Alleman, Prosper Olivier Lissigaré en 1936, Charles Longuet en 1936, voilà. Ensuite, pour Louise Michel et Eugène Varlin, il faudra attendre 1977 avec la municipalité de Sanguedols, hein, parti communiste, et donc c'est eux qui, c'est sa municipalité qui vont donner le nom de Louise Michel et Eugène Varlin du côté de la ZAC du Grand Clos vers Chavassieux. Voilà, voilà.
On va continuer avec encore un peu plus de lecture et un peu plus de culture sur notamment la commune à Saint-Thé. Voilà un autre texte qu'on a lu hier en début et en fin de manif. Il est peu d'endroits pour parler de la commune de Saint-Étienne. Peu ou pas du tout de citations dans les livres d'histoire de la commune qui parlent surtout de Paris, quelquefois de Lyon ou de Marseille, et qui, pour ne vexer personne, ajoutent des points de suspension. Peu d'endroits, de rues ou de places de Saint-Étienne portant le nom de communard stéphanois. Certes, la commune de Paris a duré 72 jours, alors qu'au troisième jour de la commune de Saint-Étienne, la fusillade du 26 mars qui tua 3 personnes, dont le préfet, nouvellement nommé, sonna le glas de cette aventure. Les insurgés s'enfuirent ou furent arrêtés le 28 et des dizaines furent lourdement condamnés à la déportation ou à la prison au procès de Rion en décembre 1871. Pourtant, le contexte qui amena les insurgés du comité central des 4 cantons de l'agglomération stéphanoise, localisé rue de la Vierge, présidé par Barthélemy Durbiz, dont Johannes Caton était secrétaire, Benoît Thibaudier vice-président et Étienne Faure, dit Coutor, était un membre actif, a déclaré la commune de Saint-Étienne le 24 mars 1871. Ce contexte est connu et a eu une répercussion nationale. Pardon. Ce contexte, qui donna lieu en 1864 à la création par Karl Marx de l'AIT, la première internationale, c'est la colère ouvrière qui s'exprime par des grèves très dures dès le début de 1869 et partout la tension est extrême. Le 16 juin 1869, moins d'un an auparavant, eut lieu la fusillade du Brûlé à la Ricamarie. 40 prisonniers grévistes furent emmenés à la prison de Saint-Étienne. La population et les autres mineurs, Michel Rondet en tête, voulant s'y opposer, se firent tirer dessus par les soldats du capitaine Gausserand. 14 morts, 14 mortes, dont un bébé de 16 mois. Rondet sera condamné à 7 mois de prison et Gausserand sera décoré. Cependant, cette grève des mineurs aura une répercussion nationale et encouragera d'autres grèves dans d'autres secteurs. Et cette colère ouvrière se transforme en une hostilité à l'Empire jusqu'au 4 décembre 1870, où la République est proclamée à Paris. César Berthollon, fondateur de l'Éclaireur, un journal, devient préfet de la Loire. Il démissionnera en février suivant. Une crise économique due essentiellement à la guerre et à une chute des commandes de rubans vient accroître le mécontentement et jeter sur le pavé des milliers de passementiers qui vont grossir les armées au front ou qui vont remplir les cafés et cercles. Partout règne une grande effervescence. On parle de démocratie à la base. Le maître mot, c'est la Commune. Un quotidien qui porte ce nom est fondé et rédigé en grande partie par Durbise en octobre 1870. En septembre 1870, le comité de la rue de la Vierge était sorte de comité central républicain, d'esprit communaliste, où les délégués des cantons assuraient la liaison avec les sections de base. Ce comité fut le foyer révolutionnaire qui assura la propagande de fin 1870 à mars 1871 et organisa la prise de l'hôtel de ville. Le peuple ne garda le pouvoir à Saint-Étienne que 2 jours, sans avoir pris aucune mesure sociale, sans avoir su garder durablement l'appui des masses. Néanmoins, l'absence des grands leaders est aussi remarquable. Un collectif réussit au moins quelques semaines pendant l'hiver 70-71 qui prépara cet événement à orienter les masses sans que se dégage un pouvoir personnel. Cela supposait sans doute une organisation. Alors, pour les sources, vous retrouverez les textes lus et des sources sur le site internet de la CNT-Loire. Mais celles qui ont servi pour ce que je viens de lire, c'est 150 ans de lutte ouvrière dans le bassin stéphanois de P. Héritier. Je ne sais pas à quoi correspond le P. R. Bonnevial, J. Yon, Saint-Cernin, aux éditions Le Champ du Possible et édition Le Métron pour les biographies. Voilà. On va terminer avec un dernier. Terminer sur ce sujet des 150 ans de la Commune. Avec un nouvel enregistrement, c'est la biographie de Gustave Courbet.
Alors moi, je voudrais faire la bio de Gustave Courbet. Enfin, la bio, c'est un peu prétentieux parce qu'il a tellement fait de choses que je ne peux pas tout faire. Alors donc, il est né le 10 juin 1819 à Ornans dans le Doubs, cette belle ville d'Ornans, traversée par la Loue qu'il a si bien peinte. Peintre réaliste foisonnant, sa vie et son œuvre sont parsemées de scandales, toujours d'actualité. Un enterrement à Ornans, il le présente à l'exposition en 1850 et ça fait scandale parce que pour la première fois, un sujet de la vie quotidienne est peint dans les dimensions jusque-là réservées aux thématiques, disons, sacrées. En 1866, il présente le magnifique « L'origine du monde », tableau qui n'a pas fini de faire jaser 155 ans après. Le troisième scandale, c'est d'avoir refusé la Légion d'honneur. Et là, je vais vous lire ce qu'il a envoyé. Monsieur le ministre, c'est chez mon ami Jules Dupré à l'île d'Adam que j'ai appris l'insertion au journal officiel d'un décret qui me nomme chevalier de la Légion d'honneur. Ce décret, que mes opinions bien connues sur les récompenses artistiques et sur les titres nobiliaires auraient dû m'épargner, a été rendu sans mon consentement. Et c'est vous, monsieur le ministre, qui avez cru devoir en prendre l'initiative. Mes opinions de citoyen s'opposent à ce que j'accepte une distinction qui relève essentiellement de l'ordre monarchique. Cette décoration de la Légion d'honneur que vous avez stipulée en mon absence et pour moi, mes principes la repoussent. En aucun temps, en aucun cas, pour aucune raison, je ne l'eusse acceptée. Bien moins le ferais-je aujourd'hui, que les trahisons se multiplient de toutes parts, que la conscience humaine s'attriste de tant de palinodies intéressées. L'honneur n'est ni dans un titre, ni dans un ruban. Il est dans les actes et dans le mobile des actes. Le respect de soi-même et de ses idées en constitue la majeure part. Je m'honore en restant fidèle si je l'ai en restant fidèle aux principes de toute ma vie. Si je les désertais, je quitterais l'honneur pour en prendre le signe. Mon sentiment d'artiste ne s'oppose pas moins à ce que j'accepte une récompense qui m'est octroyée de la main de l'État. L'État est incompétent en matière d'art. Quand il entreprend de récompenser, il usurpe sur le goût public. Son intervention est toute démoralisante, funeste à l'artiste qu'elle abuse sur sa propre valeur, funeste à l'art qu'elle enferme dans des convenances officielles et qu'elle condamne à la plus stérile médiocrité. La sagesse pour lui serait de s'abstenir. Le jour où il nous aura laissé libres, il aura rempli vis-à-vis de nous tous ses devoirs. Souffrez donc, monsieur le ministre, que je décline l'honneur que vous avez cru me faire. J'ai 50 ans et j'ai toujours vécu libre. Laissez-moi terminer mon existence libre. Quand je serai mort, il faudra que l'on dise de moi, celui-là n'a jamais appartenu à aucune école, à aucune église, à aucune institution, à aucune académie, surtout à aucun régime, si ce n'est le régime de la liberté. Veuillez agréer, monsieur le ministre, avec l'expression des sentiments que je viens de vous faire connaître, ma considération la plus distinguée. Gustave Courbet, Paris, le 23 juin 1870. Alors, après, on le retrouve donc après le 4 septembre 1870, donc à l'avènement de la République, Courbet devient président de la commission artistique, préposé à la conservation du musée national et des objets d'art. Il rédige une note à l'attention du gouvernement de défense nationale proposant de déboulonner la colonne Vendôme. Il suggère d'en récupérer une partie du métal pour la monnaie. Déçu par le gouvernement de défense nationale, proche de la Fédération jurassienne de Bakounine, il prend une part active à l'épisode de la Commune de Paris à partir du 18 mars 1871. Après les élections complémentaires du 16 avril 1871, il est élu au Conseil de la Commune par le 6e arrondissement et délégué aux Beaux-Arts. Le 17 avril 1871, il est élu président de la Fédération des artistes. Il fait alors blinder toutes les fenêtres du Palais du Louvre pour en protéger les œuvres d'art, mais aussi l'Arc de Triomphe et la Fontaine des Innocents. Il prend des mesures semblables à la manufacture des Gobelins et fait de même pour protéger la collection d'œuvres d'art d'Adolphe Thiers, dont notamment ses porcelaines de Chine. Il siège à la commission de l'instruction publique et, avec Jules Vallès, vote contre la création du comité de salut public en signant le manifeste de la minorité. Après un appel de Vallès, publié le 4 avril dans le Cri du Peuple, dans lequel il vilipende le monument, la commune décide le 12 sur une proposition de Félix Piat d'abattre et non de déboulonner la colonne Vendôme. Courbet démissionne de ses fonctions le 24 mai 1871, protestant contre l'exécution par les communards de son ami Gustave Chaudet, qui en tant que maire adjoint est accusé d'avoir fait tirer sur la foule le 22 janvier 1871. Fait qui en réalité n'a jamais été prouvé. Après la semaine sanglante, il est arrêté le 7 juin 1871 et emprisonné à la Conciergerie, puis à Mazas. Euh... Il purge sa peine à Versailles, puis à compter du 22 septembre à Sainte-Pélagie. Il doit en outre régler 6 850 francs de frais de procédure. C'est long.
Ça continue.
En mai 1873, le nouveau président de la République, le maréchal de MacMahon, décide de faire reconstruire la colonne Vendôme aux frais de Courbet, soit 323 091,68 francs selon le devis établi. La loi sur le rétablissement de la colonne Vendôme aux frais de Courbet est votée le 30 mai 1873, il est acculé à la ruine après la chute de la commune, ses biens mis sous séquestre, ses toiles confisquées. Craignant un nouvel emprisonnement, Courbet passe clandestinement la frontière aux Verrières le 23 juillet 1873. Et puis c'est là qu'il meurt, de toute façon, à la fin de sa vie, il est toujours à la Tour de Pels en Suisse, et voilà. Et donc, il meurt, hop, je cherche en même temps... le 31 décembre 1877. Voilà. Je vous incite chaudement à aller à Ornans visiter son musée magnifique.
Voilà. Alors, deux toutes petites précisions sur ce que vient de lire la camarade. D'une part, la rue Gustave Courbet à Saint-Étienne est dans le quartier de la Métard. D'autre part, on a pu l'entendre prononcer le mot, puisqu'on est dans l'émission un peu France Culture de la CNT cette semaine, enfin ce mois-ci, on a pu l'entendre dire palinodie. Alors pour celles et ceux qui sont en bagnole ou qui n'ont pas Google sous la main, une palinodie est la partie d'un texte dans laquelle l'auteur révoque volontairement tout ce qu'il s'est efforcé de démontrer dans le développement. Voilà. Des questions ? Bon, eh ben on va écouter une chanson, pareil, qui fout bien bien la pêche. Serge Utgué-Royo sur la commune.
Il était une fois dans ce grand cimetière. Écoute bien l'ami, c'est une histoire vraie. Le gouvernement d'alors avait perdu sa guerre. L'état de Prusse avait vaincu l'état français. Le gouvernement d'alors avait perdu sa guerre. L'état de Prusse avait vaincu l'état français. Pendant qu'on s'arrangeait entre grands de l'époque pour payer le tribut au premier des tueurs, voilà que de Paris le peuple se convoque et décide comme ça qu'il ne veut plus de supérieur. Voilà que de Paris le peuple se convoque et décide comme ça qu'il ne veut plus de supérieur. Tous les copains de la commune ne sont pas morts sans rien laisser. Ils doivent nous garder rancune, de laisser crever leur passé. Ils doivent nous garder rancune, de ne pas mieux en profiter. L'État de France implore son ami vainqueur de lui donner la main pour mater la canaille, car il faut sans tarder aller clouer la peur au cerveau parisien qui brave la mitraille. Car il faut sans tarder aller clouer la peur au cerveau parisien qui brave la mitraille. Et c'est le 18 mars de l'an 71 que depuis le palais où rota Louis XIV, Monsieur Thiers a brandi quelques canons de bronze
et crier vers Paris, ils vous feront rendre gorge. Monsieur Thiers a brandi quelques canons de bronze et crier vers Paris, ils vous feront rendre gorge. Tous les copains de la commune ne sont pas morts sans rien laisser. Ils doivent nous garder rancune, de laisser crever leur passé. Ils doivent nous garder rancune, de ne pas mieux en profiter. Une fille de Paris a gueulé vers le ciel et laissé sa jeunesse dans un bagne pourri. Femme, si vous luttez, saluez Louise Michel. Et si vous ne luttez pas, saluez-la aussi. Femme, si vous luttez, saluez Louise Michel. Et si vous ne luttez pas, saluez-la aussi. Aussi souvenons-nous que des frères oubliés, venus d'autres pays, citoyens de la terre, sont morts des mêmes balles que leurs frères français. Ils avaient oublié les drapeaux, les frontières, sont morts des mêmes balles que leurs frères français. Ils avaient oublié les drapeaux, les frontières. Tous les copains de la commune ne sont pas morts sans rien laisser. Ils doivent nous garder rancune, de laisser crever leur passé. Ils doivent nous garder rancune, de ne pas mieux en profiter. Notre mémoire est née de ces quelques semaines. Compagnons et compagnes, il faut l'utiliser. Revendiquons les rues, les montagnes, les plaines. Et comme les communards, abolissons l'armée. Revendiquons les rues, les montagnes, les plaines. Et comme les communards, abolissons l'armée. Il faut gratter l'oubli dont on a recouvert les leçons des copains qui furent assassinés. Il faut savoir que l'autonomie ouvrière a laissé dans l'histoire des blessures infectées. Il faut savoir que l'autonomie ouvrière a laissé dans l'histoire des blessures infectées. Tous les copains de la commune ne sont pas morts sans rien laisser. Ils doivent nous garder rancune, de laisser crever leur passé. Ils doivent nous garder rancune, de ne pas mieux en profiter.
Tous les copains de la commune ne sont pas morts sans rien laisser. Ils doivent nous garder rancune, de laisser crever leur passé. Ils doivent nous garder rancune, de ne pas mieux en profiter. Tous les copains de la commune ne sont pas morts sans rien laisser. Ils doivent nous garder rancune, de laisser crever leur passé.
Voilà, ça c'est punk.
Ouais, ça y est, on en a fini avec cette première partie, comme tu disais tout à l'heure, France Culture sur la commune. Mais bon, du coup, on va parler d'un autre sujet hyper intéressant, qui est le fascisme, et plutôt très précisément le fascisme à Lyon. Parce que, oui, Lyon est une ville qui malheureusement comporte beaucoup de groupes FAF. Racistes et nationalistes. La situation à Lyon ces dernières semaines elle a été un peu particulière. Comme tout le monde a pu le voir passer, la dissolution de Génération Identitaire a été actée il y a quelques semaines par le gouvernement. Une dissolution qui est purement politique, qui est purement un choix politique carriériste pour le gouvernement, mais en tout cas qui, dans la pratique, se traduit normalement et logiquement par l'arrêt définitif de l'activité de Génération Identitaire, sauf qu'on se rend compte que sur le terrain que ça n'est pas le cas. Car à Lyon, il existe depuis déjà de nombreuses années des salles ou de rencontres et d'entraînement de sport, de combat essentiellement, qui sont clairement affiliés à des organisations fascistes. Et Génération Identitaire a notamment deux salles dans le Vieux Lyon, donc la Gaugée et la Tragoule, qui, malgré la dissolution de Génération Identitaire, sont encore ouvertes et absolument pas inquiétées pour le moment d'aucune fermeture. Donc ce qui est absolument révoltant, ce qui n'est absolument pas normal. Et c'est pour ça que depuis déjà plusieurs semaines, il faut dire que le Vieux Lyon, de manière générale, est un quartier très fréquenté par les groupes nationalistes. On dit en raccourci que c'est leur quartier, même si la plupart n'y résident pas, mais en tout cas ils y militent. Et effectivement, il est mauvais de se balader dans le Vieux Lyon seul lorsqu'on est potentiellement cible de nationalistes. Actuellement, depuis du coup la dissolution de Génération Identitaire, donc ça se faisait déjà avant, mais depuis la dissolution, il y a énormément de vigilance antifasciste qui se monte, c'est-à-dire des gens qui vont dans le Vieux Lyon pour éviter que les fascistes, justement, surtout les week-ends, se regroupent et n'aillent faire des actions ou des agressions organisées, ou en bande en tout cas. Il y a énormément de vigilance antifasciste depuis la dissolution de Génération Identitaire qui se font chaque week-end dans le Vieux Lyon. Ce qui fait que les groupuscules fascistes, donc la Génération Identitaire, mais aussi l'Action Française, Lyon Populaire, Audace Lyon et bien d'autres, ne peuvent plus avoir les mêmes libertés qu'ils avaient avant pour le moment dans le Vieux Lyon. Ça reste quand même un quartier dans lequel ils ont beaucoup d'implantations et où leurs groupes sont quand même très forts. Mais ils sont quand même un peu plus inquiétés depuis quelques semaines. Suite à ça, plusieurs groupuscules fascistes, avec notamment des membres de Génération Identitaire, mais pas seulement, beaucoup de membres aussi de groupuscules d'ultra à tendance nationaliste, comme la Mezza Lyon, se sont en fait regroupés. Donc c'est pas dit officiellement, hein, mais voilà, se sont regroupés. Il y a plein de fascistes qui se sont regroupés en réponse à ces vigilances antifascistes qui sont allés, eux, sur le quartier de la Croix-Rousse, qui est un quartier où il y a de nombreuses vieilles organisations de gauche, et pas seulement vieilles d'ailleurs, et qui sont allés s'en prendre directement à la librairie de l'UCL, de l'Union Communiste Libertaire, en allant fracturer les vitrines et en dégradant la librairie. Donc ils ont débarqué en pleine journée, une cinquantaine cagoulés, pour détruire un maximum de ce qu'ils pouvaient faire. Bon, en revanche, ça a quand même pas aussi bien marché que prévu de leur côté, parce que quelqu'un, un voisin, en bluffant, a crié « les policiers arrivent » et les FAF se sont tous volatilisés directement. Du coup, les dégâts sont quand même très minces. Il y a les deux vitres fracturées, une vitre complètement brisée, mais il n'y a pas eu trop de dégâts humains, même si l'agression est extrêmement violente. Et que ça reste un événement traumatisant pour des militants à Lyon qui sont déjà régulièrement agressés par les fascistes. Je perds mes mots. suite à cette énième attaque sur la Plume Noire, parce que la Plume Noire a déjà été visée plusieurs fois, d'ailleurs il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois, lors d'une distribution alimentaire, c'était carrément la Plume Noire et des militants de l'UCL qui étaient à l'intérieur qui se sont fait viser et rouer de coups. Mais il n'y a pas seulement la Plume Noire. Il y a quelques années, c'était le local de la CNT qui s'était fait attaquer. Il y a régulièrement des locaux d'organisations de gauche qui sont attaqués à Lyon par les organisations fascistes. C'est dans tout ce cadre que les organisations de Lyon, donc les organisations antifascistes et pas seulement, les syndicats, les associations, ont appelé à une grande manifestation nationale antifa pour répondre à cette énième attaque et pour réclamer la fermeture définitive des locaux fascistes qui se trouvent dans le Vieux Lyon.
Des locaux, pardon, excuse-moi, merci.
Heureusement qu'il y a des profs à la CNT.
France Culture en prend un coup.
C'est ça. Pour réclamer la fermeture des locaux fascistes, donc j'ai la Gaugée et la Tragoule notamment, qui, je le rappelle, sont des locaux affiliés à Génération Identitaire. Sauf que la préfecture du Rhône, qui reste toujours inactive face aux violences que peuvent faire les groupes nationalistes, en revanche, va quand même vouloir interdire la manifestation antifasciste 2 jours avant que celle-ci ne se déroule. Donc en plus, c'était une manifestation à ampleur nationale, donc avec beaucoup de gens qui prévoient un petit peu leur déplacement à l'avance. La préfecture du Rhône va interdire cette manifestation, qui du coup n'aura pas lieu, en argumentant que celle-ci est un appel à la haine et que celle-ci est trop dangereuse. En sachant que c'est une manifestation de riposte suite à une agression physique d'une librairie et suite à des agressions de militants qui sont perpétuelles. Et encore une fois, on voit que l'État, via la préfecture du Rhône, préfère stigmatiser les antifascistes qui font un travail de riposte et de solidarité, en qualifiant leur action de violente, et vient par contre du coup interdire leur, les rassemblements qui sont dénonciateurs et réclament la locaux qui réclament la fermeture des locaux fascistes, tandis qu'elle ne fait absolument rien contre ces locaux mêmes et contre les organisations qui sévissent à Lyon, on va dire. Du coup, voilà, situation bien triste. Cette manifestation va donc être reportée à une date ultérieure, donc j'ai pas la date en tête. C'est les organisations lyonnaises qui vont sûrement bientôt communiquer ça, ou qui l'ont peut-être communiqué, mais je ne l'ai pas encore vu passer. Mais en revanche, hier, il y a quand même eu une tentative de manifestation sauvage par plusieurs antifascistes autonomes dans le quartier de la Guillotière. Tout de suite, la police n'a pas manqué à venir réprimer cette manifestation. Donc, présence de la BAC, d'un hélicoptère, de nombreux policiers en anti-émeute, qui va tout de suite venir réprimer le petit groupe d'individus qui va quand même essayer symboliquement de faire quelque chose. De montrer acte de présence dans la rue pour ne pas se résigner à cette interdiction préfectorale. Je sais pas si ça se dit vraiment ce que je viens de dire, mais, mais je pense que c'était compréhensible. Et sauf que du coup, voilà, cette tentative de manif sauvage a été très vite interrompue. En revanche, pendant cette tentative de manif sauvage, pas loin de ce même lieu, il y a un groupe de nationalistes, pour le coup des nationalistes turcs, donc les loups gris, qui vont s'en prendre, eux, à un local, un amical, en gros un local qui accueille beaucoup de gens de la communauté kurde. Donc le local, je cherche le nom, c'est la Mésopotamie, ça s'appelle. Et là, c'est 25 fascistes qui vont débarquer dans ce local et qui vont fracasser, tabasser et lyncher des gens dans ce local en envoyant 4 personnes à l'hôpital, dont une personne en état grave, et qui vont justement profiter de ce moment-là où les policiers sont un peu occupés ailleurs, où les militants sont un peu occupés ailleurs, pour venir s'en prendre à ce local, et qui va faire qui vont faire des violences physiques sur des revendications complètement racistes. Je sais pas si c'est compréhensible.
Voilà, donc ça, en tout cas, ça pue à Lyon.
Complètement. Enfin, voilà. Tous, à Lyon, c'est clair que, du coup, entre, d'un côté, les groupes FAF qui ne sont absolument pas inquiétés, et c'est pas normal, par les autorités publiques, entre les groupuscules FAF qui sont, du coup, qui ne sont pas inquiétés, vont pouvoir organiser, planifier des agressions. Le milieu antifa est présent à Lyon, il y a vraiment du boulot et
ils font face à plusieurs ennemis, quoi. Il y a la police et la répression qui a pris un parti qui est pas le nôtre, on va dire, et puis les FAF même qui sont organisés, qui sont nombreux, qui sont entraînés
et qui sont multiples. Il y a de multiples groupes fascistes à Lyon.
Et voilà, dont on peut bien se demander quel métier ils font, ces gens-là. on rappelle quand même que les loups gris, à l'attaque du local de l'association kurde par les loups gris, il y a eu 4 blessés. Hein, je ne sais pas si tu sais.
C'est ça, 4 blessés, dont un blessé grave.
Voilà.
Enfin, il y a probablement eu plus de personnes blessées, mais en tout cas, il y a au moins une personne qui a été obligée d'être prise en charge de par ses blessures. Les personnes qui étaient présentes sur place décrivent vraiment quelque chose de sauvage et traumatisant. Après, c'est pas à Lyon, c'est la réalité du fascisme à Lyon, on peut pas se balader si on est cible n'importe où, et on n'est jamais sans risque de tomber sur un groupe de faf qui va venir t'agresser ou t'embêter et c'est pas systématique. Et il y a aussi un travail qui est fait en face au niveau antifascisme qui est aussi fort et très présent, mais pas sur tous les quartiers pour le coup.
Bah, en tout cas, gros soutien aux camarades de Lyon. On espère que cette manif nationale elle pourra se faire et qu'on pourra aussi aller les soutenir par plein d'autres moyens.
Clairement.
On va s'écouter en réaction à ça un morceau qui s'appelle Antifascista du groupe allemand ZSK.
Mit stundenlangen Protesten und teilweise gewaltsamen Blockaden haben mehrere tausend Menschen heute in Dresden einen Aufmarsch von Rechtsextremen verhindert.
C'était ZSK sur Connor Tripalium, l'émission des syndicats de la CNT 42 sur Radio Dio 89.5.
Oui.
Et ben on a fini. On va faire juste un petit point sur le groupe jeune de la CNT 42. Puisque vous êtes là.
Bien sûr.
Bah ouais, du coup, on peut parler que du coup on s'agrandit de plus en plus. Déjà sur Saint-Etienne, on a plus de nouvelles lots. Du coup après on justement à la manif de la commune, on a eu deux camarades de Grenoble de la CNT jeune de Grenoble qui sont venus nous rejoindre, donc on a pu discuter, et eux aussi du coup là ils commencent à monter un groupe jeune sur Grenoble, et il y aurait potentiellement aussi le 26, la CNT du 26 qui
c'est très en réflexion, mais ouais. En tout cas ouais, il y a ce groupe jeune à Grenoble qui est en train de se monter, et c'est cool parce que nous ça nous laisse plein de bonnes perspectives de travail en commun, et de voilà, voir comment sur deux villes différentes on peut s'emparer des mêmes sujets et lutter d'un même front. Et puis en plus humainement c'est aussi des rencontres très riches quoi, avec des gens qui sont tous très intéressants et voilà, c'est assez cool. Et du coup là récemment on a fait plusieurs actions qu'on va vous rapporter un peu à l'oral. Je sais pas si on commence sur l'action de Zara.
Eh ben ouais, on peut parler de l'action de Zara. Donc on a des camarades qui se sont réunis dans le Zara à Saint-Étienne.
Ouais, place. Dans des deux magasins Zara du centre-ville.
Voilà. Pour déposer des petits papiers dans les poches des vêtements et qui étaient sur ces bouts de papier, c'était marqué, du coup, je vais vous le lire. Zara participe à l'exploitation d'une minorité musulmane opprimée par l'État chinois. Les Ouïghours, le travail forcé qui leur est infligé tous les jours, permet de produire le coton de ses vêtements. Les conditions de travail, la réprimande sont des faits actuels bafouillés par la presse. Agissons, car le respect des droits de l'humanité prime sur le profit des grands distributeurs, non à l'exploitation des populations. Le coton qui constitue ce vêtement provient essentiellement des usines de Xinjiang.
Comment on dit ?
Xinjiang.
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 Comme ça.
Où chaque jour, des milliers de Ouïghours sont contraints de travailler dans des conditions déplorables. Des personnes se mobilisent afin de contrer la répression de ces minorités musulmanes et les crimes contre l'humanité des grandes distributions qui continuent d'asphyxier le travail forcé. Voilà.
Ouais. Au même titre que Nike, Puma et plein d'autres, Zara participe à cette exploitation-là.
Oui, et comme beaucoup d'autres magasins.
Du coup, voilà, c'est, on espère que cette action de sensibilisation elle touchera au moins les 2-3 personnes qui peuvent être habituées à aller chez Zara et qui auraient acheté un vêtement et qui se retrouveraient avec ce petit papier dans la poche. Donc le but, c'est pas d'être... c'est vraiment d'avoir plus une action symbolique et surtout préventive, quoi. Et d'essayer de pas tomber non plus dans un truc de... C'est pas bien ce que vous faites. Voilà.
Non, c'est, de pas... c'est pour montrer, pour dire aux personnes inconscientes de ça, qui ne savent pas ce qui se passe réellement, comment leurs habits sont faits, qu'ils le sachent, quoi, pour se remettre potentiellement en question et aller acheter leurs habits
ailleurs. Voilà. Et sinon, on a fait une autre action qui nous a valu les ovations de toute. La classe politique des Républicains. Alors que de base, c'était pas vraiment le but. Il y a une semaine et demie, on a fait une action. Je sais pas si tu veux en parler. Non, c'est bon. On a fait une action pour dénoncer la loi sécurité globale qui actuellement est, ou en tout cas vient juste d'être écrite par le Sénat. Qui s'accorde pour écrire cette loi, du coup, qui s'est accordé avec les députés marcheurs et le Sénat qui est majoritairement républicain. Prochainement, la loi risque d'être redébattue à l'Assemblée nationale où la majorité est présidentielle et celle du parti présidentiel. Donc, ça pue un petit peu pour cette loi. Et en tant que citoyen, en fait, notre seul recours, c'est qu'il n'y en a pas. Parce que notre système est bien fait pour qu'on nous demande notre avis une fois tous les 5 ans et basta. Du coup, on continue à se mobiliser donc dans la rue pour réclamer non pas une réécriture, non pas quelques points à supprimer dans cette loi, mais le retrait total de cette loi. Et du coup, on est allé cibler volontairement les permanences de députés qui ont voté en première lecture ou en tout cas qui sont favorables à ce projet de loi. Donc à savoir 3 députés La République En Marche de la Loire et le député LR Dino Cinieri, qui est le député de la circonscription de Firminy et alentour. Pour le coup, on n'a pas eu vraiment de retour des députés marcheurs qui ont plutôt fait mine basse, si ce n'est la députée de Saint-Chamond et alentour qui a dit qu'elle ne porterait pas plainte contre nous et qu'elle n'en dirait pas plus parce que ça serait nous faire trop de pub, mais qui en tout cas n'a pas réagi du tout sur le fond du sujet. Et en revanche, Dino Cinieri, le député des Républicains de Firminy, lui souhaite porter plainte contre nous pour dégradation et diffamation suite à ce qu'on a marqué sur sa permanence.
Enfin non, ce qu'on a affiché.
Enfin, ce qu'on a affiché sur sa permanence.
Parce que on n'a pas touché à sa permanence.
Sûr. Justement, voilà, ce qui est assez drôle, c'est que du coup, ce député s'est tout de suite braqué pour un message qui était très clair. C'était Dino Cinieri... attendez,
je vais liberticide et dangereux.
Non, ouais, ça, alors c'était marqué Dino Cinieri défend soutient l'institution policière et ses violences, député liberticide et dangereux. Donc voilà, je sais pas trop où est la diffamation dans tout ça parce que pour le coup, c'est que des choses qu'il assume lui publiquement de défendre l'institution policière et de nier les violences de celle-ci. Et en tout cas, voilà, il était vraiment pas content pour qu'on ait affiché un morceau de tissu sur sa permanence. Mmh. Du coup, on verra si il donne réellement des suites à ceci. Quoi qu'il en soit, nous, on garde toujours ce message et on espère que prochainement, dans le 42, il y aura de nouveau des grosses mobilisations contre la basse sécurité globale. Car on va pas se mentir, ça a carrément diminué. Mmh. Il y a très peu de rassemblements actuellement. On espère que ça va repartir lorsque la deuxième lecture de la loi va revenir à l'Assemblée. Et on espère que cette loi ne passera pas.
Ouais.
On espère. Voilà, voilà.
Alors, on a un petit peu débordé sur l'horaire, c'est pas grave. On rappelle juste les contacts de la CNT. Si vous voulez venir passer nous voir, on est à la salle 15 bis, Bourse du Travail, cours Victor Hugo. 42 028 Saint-Étienne CEDEX 1. Passez-nous voir ou nous écrire. On y est normalement le vendredi à partir de 17h. Si vous voulez vous assurer quand même de nous voir ou si vous voulez prendre un rendez-vous à un autre moment, vous pouvez appeler au 04 77 25 78 04. Vous pouvez également contacter le groupe non mixte CNT Femmes Libres Saint-Étienne à cnt-8-femmes au pluriel, libre au pluriel, -8-42@riseup.net ou au 06-21-70-60-67. Pour le groupe jeune dont on vient de parler, c'est cnt-jeune au pluriel, cnt-jeune42@riseup.net.
Ainsi que sur Facebook et Instagram.
Pour le groupe jeune, effectivement. Et voilà, c'était Cœur Noir Tripalium sur Radio Dio. On vous dit au mois prochain. Salut,
salut à tous.
Merci.
Ciao.
Okay.